Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, nous l'attendions, vous l'attendiez, The Witcher 3 Wild Hunt. On en avait déjà évoqué le sujet la semaine dernière, hein. J'avais spoilé un peu ce qui allait se passer cette semaine. Mais voilà, ça fait une semaine qu'il est sorti, une semaine que nous sommes entre les contrées de Velen, on suit Gérald de Rive, on suit ses aventures, on va chasser des monstres et tout ça, donc il faut un moment qu'on en parle longuement, et c'est cette semaine dans Silence on Joue. Et puis Monsieur Fall, le com des coms, et vous connaissez le reste du programme, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 minutes. Bonjour Joël.
Bonjour.
Et un grand retour qu'on n'attendait plus, hein, Jean Z de France Info. Bonjour Jean.
Salut.
Qu'est-ce que ça me fait plaisir.
Moi aussi.
Le planning s'est dégagé, tout.
Mais
ça.
Comme le ciel.
Voilà, les étoiles sont rentrées, se sont alignées. Enfin voilà, c'est magnifique. Donc voilà, on va parler de The Wild Hunt. Et puis on commence avec toi, Joël, sur un autre sujet, donc sur un teasing côté 2K.
Oui, un teasing du côté 2K. Ils ont en fait, l'éditeur a mis en ligne il y a un ou deux jours un espèce de site assez mystérieux qui est une espèce de page de pub pour une technologie qui s'appelle Advent. Voilà, enfin plutôt pour une société dont la technologie s'appelle Advent. Donc on y voit des gens comme ça qui ont l'air très heureux, des photos de gens très heureux d'utiliser cette technologie qui leur permet de...
C'est le bonheur.
Oui, c'est le bonheur d'avoir la santé, de pouvoir vivre plus vieux. Et à la fin, en fait, on trouve une espèce de petite notice un peu étrange où en fait on nous met un espèce de site comme si on nous avait hacké, comme si le site avait été hacké, une espèce de notice étrange où on nous demande de nous méfier d'Advent, quoi, car Advent nous ment. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. A priori, ce serait plutôt un jeu dans une société dystopienne, donc on ne sait pas encore trop, donc à voir ce qui nous prépare.
Ouais, de la SF côté 2K.
Ouais.
On va attendre.
Voilà.
On va attendre. Jean, on commence là, dès maintenant, à parler de The Witcher, parce que ça fait une semaine et déjà, on savait déjà que c'était un carton rien que sur les précommandes, mais la première semaine, ça s'annonce plutôt pas mal.
Oui, puis la question qui se pose, c'est est-ce que ce Witcher 3 sera le nouveau Skyrim, hein, en clair. Skyrim, c'est un phénomène, c'était sorti en 2011, hein, le dernier épisode d'Elder Scrolls, c'est 20 millions de copies vendues dans le monde. 20 millions, c'est bien plus que... qu'un triple A normal, qui a 7-8 millions, déjà, il est très très heureux, le triple A.
Oui,
l'éditeur
oui,
aussi,
oui.
Il est très 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 heureux, il se frotte les mains. À 20 millions, on est de l'ordre du phénomène. Alors, est-ce qu'on va atteindre ce phénomène avec The Witcher 3? En tout cas, ça démarre bien, selon Gamekult, qui a sorti les premiers chiffres. En tout cas, au Royaume-Uni, on en est, qui surpasse notamment les performances de Battlefield Hardline. C'est le meilleur démarrage de l'année, cette année en tout cas. Mortal Kombat 10 également battu. Alors, pour ce qui est des pourcentages, on est à 60% environ PS4, une trentaine pour la Xbox One, pour le PC un peu moins, mais on n'a pas les chiffres dématérialisés,
ouais,
c'est toujours pareil.
Le PC, ouais, Steam et Good Old Games, qui ont très bien marché avec The Witcher, on
voit exactement.
Son première place des ventes depuis une semaine.
Mais on n'a pas les chiffres, par contre, Gamekult aurait les chiffres, en tout cas selon eux, d'après leurs informations, ils auraient les chiffres France, 120 000 exemplaires en France, hors dématérialisés, en une petite semaine, là aussi, meilleur démarrage de l'année, donc... peut-être qu'il va s'approcher des 20 millions de Skyrim.
Sachant que
c'est un phénomène, en tout cas.
1,5 million de précommandes. Hein. Déjà, c'était...
Monde, bien sûr.
C'est, en fait, ils en avaient eu, je crois, 1 million. Ils avaient eu plus 500 000 avec les premiers tests qui avaient parlé de chefs-d'œuvre et tout ça.
Et on est déjà dans l'ordre de l'incroyable.
Surtout, venant d'un jeu, mais on aura l'occasion d'en parler, The Witcher, qui n'est pas une énorme licence. C'est des très bons jeux. Surtout The Witcher 2 était un très bon jeu, mais qui restait quand même...
Vraiment, oui, très jeu de niche, quoi.
Voilà.
Adressé vraiment à public très, très amateur de RPG, oui, fantasy.
Et puis PC, à la base.
Et puis PC. Le com des coms de la semaine dernière, avec un programme un petit peu léger, où nous avions parlé de Puzzle & Dragon, Kirby notamment, et nous avons Gandalf81 qui nous dit « J'ai longuement joué à Puzzle & Dragon Mario Edition. J'avoue être surpris par la qualité du titre. Comme l'ont indiqué les chroniqueurs, les challenges est assez relevé très rapidement, même si les mécaniques de jeu sont facilement assimilable. Pour avancer sans encombre, il faut absolument maîtriser les déplacements, les réfléchir ainsi que peser le pour et le contre. Le minimum de 3 combos devient un minimum vital. Après, il y a pas mal de mécaniques à apprendre, comme les forces, les faiblesses, les gestions de son équipe, sans oublier les volets fusion, évolution de ses créatures. » Je ne sais pas de quoi il parle à la fin, parce que moi, je n'y ai pas joué. Mais bon, je suppose que ceux qui ont joué à Puzzle & Dragon comprennent. Jérémy Israël, qui, serais-je tenté de dire, comme à son habitude, râle dès qu'on ne parle pas de blockbuster, il dit « Non, mais franchement, il ne faut pas se sentir obligé de faire un sommaire traditionnel quand il n'y a pas de contenu. Quand c'est la dèche comme ça, pourquoi ne pas faire un épisode spécial ou inviter des auditeurs, par exemple, les envoler lyriques autour de jeux pourris 3DS ? Pourquoi pas ? On vous aime, quel que soit le sujet de vos conversations, mais un saut d'eau froide dans la gueule m'aurait donné plus envie de jouer au jeu de la semaine. » Voilà, ça c'est dit. Mais Red lui répond « Je préfère 1 million de fois un silence on joue avec des jeux bizarres, petits, inconnus et auxquels je ne jouerai peut-être jamais que pas de silence on joue du tout. » Oui, voilà. Et ben exactement. C'est pour ça qu'on le fait, monsieur. Donc, merci à l'équipe de produire l'effort au lieu de nous laisser un message laconique du type « Nous jouerons à The Witcher 3 la semaine prochaine. » Et pour les grincheux exigeants, impatients ou pas assez ouverts d'esprit, le sommaire existe. Arrêtez donc de souffler d'aussi malheureuses idées que celle d'un Ice Gamer Challenge ou pire que de se passer du silence au jeu hebdo. Ceci étant, je suis d'accord qu'un podcast en public ne ferait pas de mal depuis le temps, et puis il y a tellement de petits nouveaux chroniqueurs. Ouais, on s'approche du podcast numéro 300, qui sait, on retrouvera peut-être un enregistrement public au début de la saison prochaine. Et voilà, et ça c'est fini pour le com des coms, et puis nous sommes en partance pour le monde de The Witcher 3. Non.
We were many. Now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf.
We meet again, Witcher.
Your Imperial Majesty.
She's returned, Geralt. After all these years.
Are you sure it's her?
Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her.
You must find her. And when I do, what then?
I shall give
deserves.
On retrouve donc le sorceleur Geralt de Rive au tout début du jeu. En tout cas, il est à la recherche de Yennefer, sa bien-aimée, qui est partie sans en lui laissant une lettre, mais c'est tout. Et il est à sa recherche. Et puis vite, son aventure va partir dans d'autres directions, et notamment à la recherche de sa fille adoptive Ciri. Mais je vais très vite vous laisser la parole pour essayer de comprendre ça a été quoi, d'une part déjà vos attentes par rapport à The Witcher 3 et le premier contact avec ce jeu, Joël.
Oh, mes attentes, elles étaient énormes. C'est l'un des rares jeux que j'attendais vraiment cette année avec impatience, qu'on me promettait voilà un monde ouvert, très beau. On allait partir à la chasse à la traque de bêtes sauvages. En prenant le jeu en main, déjà une bonne première impression en compagnie de Geralt, quoi, en compagnie donc du héros du jeu, puisque en fait on va pas pouvoir construire son propre personnage, mais on va marcher donc dans les pas de Geralt. Donc dès le début, on est vraiment pris, je trouve, dans l'espèce d'histoire un peu comme on sent qu'on est vraiment dans le début d'une fresque historique. On sent qu'il s'est passé aussi des choses derrière dans Witcher 2, c'est-à-dire que au début il y a vraiment un pont qui est fait avec Witcher 2. On se retrouve avec un compagnon dont je me rappelle plus son nom, d'ancien maître sorceleur. Donc on assiste à leurs discussions qui sont plutôt rigolotes dès le début, un peu désabusé. Et avec ça, on a très rapidement un tutoriel qui est bien vu, bien fait, lors d'un flashback, en fait. Donc, on va comprendre un petit peu ce qui s'est passé, où ils en sont venus pour en arriver là. Donc, lors de ce tutoriel, sont présentés un petit peu les principaux personnages avec lesquels on va faire rapidement connaissance tout au long de l'aventure. Et dès le début, c'est époustouflant, quoi. C'est vraiment les graphismes sont superbes, sont magnifiques, mais c'est la sensation, quoi, d'avoir ce monde terriblement ouvert terriblement ouvert à tous les horizons à 360 degrés, très très agréable. Et c'est aussi la vie qui anime ce monde, aussi bien dans les villages que dans la nature, quoi, où se baladent lièvres, goules
et autres noyeurs.
Et tout de suite, en fait, on est vraiment, je trouve, très rapidement embarqué dans l'aventure. Sachant donc qu'il y a cette espèce de quête principale où on va donc devoir retrouver Ciri, donc la fille adoptive, en passant par maintes virages narratifs. Mais en fait, on s'égare vraiment très rapidement dans des quêtes secondaires. Je trouve que c'est un jeu où il y a une quête principale, mais finalement, elle n'est pas... Bon, elle est intéressante, mais on arrive vraiment bien à s'en écarter et à se balader. Mais moi, ce que j'ai fait dès le départ, c'est que j'ai rien suivi. C'est-à-dire que je suis parti. Non, mais c'est vrai, je suis parti dans les champs, comme ça, en courant, et je me suis dit, ça m'a meilleur.
Genre, t'as vu un point d'exclamation quête, t'es parti dans la direction opposée.
Non, voilà, c'est-à-dire que j'aime bien cette manière d'appréhender le jeu, de nous laisser vraiment cette entière liberté, quoi, de tisser sa propre histoire, aller explorer en fait soi-même le jeu, et ça c'est vraiment très agréable. Ensuite il y a tout la prise de contact avec Geralt, donc on s'aperçoit que c'est pas un mec franchement très... il est pas sympathique, il est pas antipathique non plus, mais c'est pas mal d'être dans ses bottes quand même. Donc il possède à la fois des pouvoirs comme ça, des pouvoirs de sorceleur, des pouvoirs de magie qui vont pouvoir lui servir à la fois dans les combats et puis lors de dialogues, et donc aussi ses épées pour décapiter ces différentes bêtes. Donc un bestiaire aussi qui est très très développé, moi que j'aime beaucoup dans le jeu. Or il y a plein de classes différentes, il y a les créatures hybrides, les créatures maudites, les draconides, les élémentaires, les insectoïdes, les nécrophages, en fait il y en a plein.
Les spectres
qui sont accompagnés, les spectres qui sont tous accompagnés dans un globe sert vraiment d'une description très précise et très très amusante. Enfin, j'encourage les gens qui vont y jouer à aller lire les caractéristiques de ces ennemis. Et puis après, ce qui prend rapidement, c'est c'est aussi c'est la qualité des dialogues. Il faut le dire, c'est vraiment génial. C'est-à-dire, il y a pas mal de cinématiques. Jamais j'en ai passé aucune. Enfin, alors que souvent dans certains RPG, ça peut être un peu laborieux. Et là, pas du tout. C'est-à-dire que c'est écrit avec, je sais pas, avec une précision, d'orfèvre. C'est-à-dire que vraiment chaque mot est à sa place. Il y a beaucoup d'humour en fait dans le jeu aussi.
Oui.
Un humour mais très très grinçant quoi. Enfin, je sais pas, j'avais noté ça. C'est en allant voir un forgeron par exemple pour aller se refaire son armure. Donc lui demande une super armure et lui répond le forgeron. Vous voulez pas qu'elle se nettoie toute seule et qu'elle vous touche le cul avec pendant qu'on y est. Enfin, c'est vraiment des dialogues comme ça. C'est assez fleuri, assez
marrant.
Oui, c'est
quand on demande une armure légère, mais performante.
Voilà, c'est ça. Légère et performante. Faut pas déconner. vraiment très très agréable. Alors aussi le monde est assez, on va dire, c'est quand même assez glauque quoi. Enfin glauque, c'est pas c'est un petit peu gore, c'est-à-dire qu'il y a des membres qui se baladent un petit peu partout comme ça. Mais c'est assez glauque. On voit que là, il y a la guerre qui est passée. On entre dans on commence à Blanchefleur, puis ensuite dans Vélène. Ce sont deux contrées qui ont été ravagées par la guerre, puisque l'empire de Nilfgaard est descendu et donc s'est emparé de ces contrées qui sont occupées. En fait. Donc, ce que j'aime bien, c'est que Geralt, au milieu de tout ce monde qui est très cohérent, très riche, il va frayer son petit chemin pour essayer de retrouver Ciri.
On va aborder à peu près tous ces points dont tu as parlé un peu plus en profondeur.
Ouais.
Jean, toi, tes attentes et ce premier contact.
Moi, j'en attendais pas autant. Le Witcher 2, j'avais beaucoup, beaucoup aimé, mais. Ceci dit, c'est peut-être mieux de pas trop en attendre et de tenir le jeu, en tout cas le jeu des jeux pour l'instant en 2015, et je pense même sur plusieurs années. En tout cas, peut-être pour la génération PS4, Xbox One, on le tient. Parce qu'il va plus loin qu'un RPG, on oublie que c'est un RPG, oublie tout ça. C'est un univers extrêmement cohérent, Joël le disait. Et de fait, alors moi j'ai pas eu la même expérience, moi je n'ai absolument eu aucune envie d'aller voir le monde. Celui qui m'était présenté, en tout cas dans l'histoire principale, m'allait très bien. J'ai fait un petit moment de, je sais pas, 2-3 heures de balade, mais pas plus. Donc j'ai fait assez peu de quêtes secondaires. Et moi, c'est l'histoire, cette espèce de bonhomme, la manière dont c'est raconté, l'extrême, effectivement, précision des dialogues. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres exemples récents, peut-être à part un GTA. Voilà, qualité d'écriture, dans un autre univers, on n'est pas dans l'Heroic Fantasy avec GTA, mais dans cette précision de se dire oui, c'est cohérent, oui, ça, ok. Ou j'aurais pu le dire, ou j'aurais pu sortir une vanne comme ça, parce qu'il est à la fois cynique, mais il est à la fois touchant, il a tout ça, Geralt de Rive. Il est parfait pour un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on peut le manier, on peut être salaud, à des moments on peut regarder à droite alors qu'il faudrait regarder à gauche pour aider l'humanité, mais on va quand même regarder à droite parce qu'on n'a pas que ça à faire.
C'est un sorceleur, donc un mercenaire. Il ne fait rien gratuitement à l'origine. Alors,
c'est un mercenaire, mais qui doit tuer des monstres parce qu'il y a des monstres dans cet univers d'Heroic Fantasy. Et si le maire ou les paysans se regroupent pour le payer, c'est un peu les sept mercenaires, il va aller foudroyer un monstre qui embête les paysans locaux, etc. etc. Donc, il a aussi un espèce de destin un peu spécial quand même, c'est qu'il a été pris dès l'enfance, empoisonné quand même très légèrement. Enfin bon, il a pas eu une chouette vie quand même pour en arriver là. Il est diaphane, il a les cheveux blancs, il a bouffé de la potion qui tuerait n'importe quel être humain normalement. Donc vraiment, il a un parcours très spécial. En plus, c'est un coureur de jupons. Enfin bon, on sent bien qu'il a plusieurs nanas.
Il
y a une tension sexuelle aussi. Ça, c'est un avantage, moi je dis, par rapport à GTA, c'est que par rapport à d'autres jeux, c'est que la tension sexuelle, c'est quasiment dans un jeu vidéo aussi difficile que faire pleurer. Ils sont rares les exemples de jeux qui font pleurer, mais la tension, il y a de la tension sexuelle chez Geralt. Une belle nana qui arrive, tu sens bien que le mec, alors il y va pas, c'est pas camping, il y va pas comme un bourrin, mais il y est. Et ça, c'est riche de tout ça, c'est riche d'humanité, et même les monstres, ce que moi je note dans la rencontre avec les monstres, c'est tout de suite, il arrive l'histoire, le jeu vidéo arrive va les humaniser. C'est pas qu'ils ne les rendent sympathiques, mais les tuer, c'est pas si simple.
Ouais.
C'est pas juste tuer un animal de jeu vidéo. Non, ça va être tuer un animal tout en sachant que il a un historique, etc. Et ça, c'est vachement intéressant. Et du coup, moi, je me suis assez peu baladé. J'ai suivi cette histoire. Je suis les pas de Geralt de Rive et je trouve que je trouve que c'est un jeu incroyable. C'est un jeu qu'on n'a pas envie, ils sont rares, qu'on n'a pas envie de finir, et que ça va être très dur de terminer une telle expérience. On sait immédiatement. Ouais. Tout est tenu, tout est équilibré, tout est là. Et voilà, c'est un Red Dead Redemption, c'est de cette hauteur-là.
C'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu cette impression. Moi, en termes d'attente, j'en attendais beaucoup, mais plus dans la continuité de The Witcher 2 que j'avais, alors que je n'avais pas fini, pour manque de temps, c'est une période. Mais c'était, pour moi, c'était que je savais que ça allait être un monde ouvert, donc ça allait m'intéresser plus, forcément. Mais voilà, c'était dans cette continuité-là. Et je me retrouve avec il y a un fossé, il y a une sorte de paradigme dans la série. C'est-à-dire, on est quelque part, moi, ce 3, ça me rappelle GTA 3. Enfin, c'est-à-dire que qui se rappelle de GTA et GTA 2 aujourd'hui? C'est plus grand monde. Ouais. C'est finalement GTA et GTA 2, c'était une introduction. Mmh. C'était une introduction pour arriver à ce GTA 3 qui amène le monde ouvert dans le jeu vidéo. Enfin, qui existait un petit peu avant, mais grosso modo, qui le conceptualise, qui permet d'en faire quelque chose, d'en faire du jeu vidéo un lieu. Mmh. C'est quand même quelque chose. Et finalement, The Witcher 3, voilà, je sais pas si dans 10 ans, on se rappellera qu'il y a eu un The Witcher et un The Witcher 2, parce que c'est un nouveau début. C'est comme si on pouvait enlever ce numéro déjà, c'était presque inutile. Et là, je me retrouve, donc j'attendais une suite, je me retrouve face à autre chose, et c'est vrai que dès la première heure de jeu, après cette introduction, alors c'est marrant parce que moi je vois de quelle partie tu parles, Joël, quand tu parles de didacticiel. Moi je trouve que le didacticiel, et c'est ça qui une très très bonne idée, le didacticiel, finalement, c'est la première zone. Mmh. Qui est une zone finalement pas très étendue, blanche-neige, ça aurait été un peu bizarre. Blanche-fleur. et qui est déjà en lui-même un monde ouvert. Mmh. C'est déjà une carte hyper ouverte, très large, très grande, mais qui est un terrain quand même relativement limité. On comprend là tous les mécaniques, les petits points d'interrogation sur la carte, qui sont un peu des événements localisés, un peu inconnus. Si on y va, on va découvrir un camp de bandits, un nid de monstres, et puis plein d'autres choses, quelqu'un d'emprisonné, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis, les points d'exclamation qui sont la typographie générale de la quête dans un RPG, et puis ces panneaux d'affichage où il y a les contrats, parce que alors c'est ça, dans les différents chemins de traverse que propose The Witcher 3, il y a non seulement les quêtes secondaires qui sont là, il y a les contrats qui sont là, et puis il y a cette quête principale qui avance à Blanchefleur. Et puis là, on arrive à Velen, et c'est là où même... Enfin, on a fait Blanchefleur, et je pense qu'au moment où on arrive à Velen, on sait que, comme tu l'as dit, on efface au moins au jeu de l'année, si ce n'est le jeu de ce début de génération, parce que on est au-delà du très bon jeu.
On sait que on va vivre un grand truc. Mmh. Voilà, c'est pas un grand. Je sais pas si c'est un grand jeu d'ailleurs ou un grand, je sais pas quoi, mais c'est un grand truc. Ouais. C'est un grand truc.
Effet exceptionnel, c'est pas signé Rockstar quand même. Parce que c'est ces dernières décennies. Les jeux qui rentrent dans cette catégorie, de manière personnelle, c'est vraiment c'est ce que je pense, c'est que ils sont tous signés Rockstar. On peut mettre GTA 4, Red Dead Redemption dedans, enfin moi peut-être GTA 5 ou pas, mais ces jeux-là qui ont cette ampleur-là jusqu'ici sont signés Rockstar, et là on a face à un développeur polonais CD Projekt qui arrive d'une manière complètement incroyable à regrouper suffisamment de ressources, parce que je sais pas combien de temps ils ont, combien de personnes, combien de temps ils ont fait pour, ils ont pris pour faire ça, mais c'est complètement subjugant, quoi.
C'est très beau en plus, hein. Enfin, je dis, il y a comme ça flatte l'œil dans tout cet univers d'Heroic Fantasy, certes repoussant quand même, parce qu'il faut quand même dire que parfois c'est quand même.
Mais
à la fois très attirant. Alors, s'ils sont arrivés vraiment à faire. Il y a des moments. Mais on est. Voilà, c'est hypnotisé.
C'est effectivement ce que j'aime bien, c'est ce mélange à la fois d'érotisme, dont, voilà. Enfin, tu parlais de tension sexuelle. Moi, je trouve que c'est plutôt. Il y a des scènes très érotiques où on a des femmes et un Geralt déshabillé qui sont assez aguicheuses. J'aime bien ce mélange d'érotisme et de cruauté totale, où on va aller se balader dans une maison et on va apercevoir un gamin et sa mère mère crevée dans un lit. Enfin, j'aime bien ce mélange un petit peu, ce mélange du sordide et... Et ce côté sensuel, quoi, aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de surprises, en fait. Les quêtes, c'est pas des quêtes à la va chercher, va tuer trois poules, va. Voilà, les quêtes génériques à la con. Non, c'est vraiment des quêtes qui sont parfois très, très surprenantes et qui amènent même après à s'interroger sur ah bah, finalement, j'aurais peut-être pas dû accepter. Bon, je vais un tout petit peu spoiler, mais pas trop. Mais par exemple, il y a cette quête. Alors, c'est. Alors, on est dans un monde qui est pas très. Pas très sympathique, où effectivement il y a aussi des discriminations raciales, là notamment par exemple à l'égard d'un nain qui est forgeron. Donc il nous dit oh là là, on a brûlé ma maison, je peux plus travailler, c'est terrible, c'est horrible. Et en fait, donc on se dit est-ce que je vais l'aider ou pas. Alors moi, dans mon bon cœur, je me suis dit oh, ce pauvre nain victime de discrimination, j'y vais. Donc voilà, je vais aller retrouver en fait la personne qui a brûlé.
Alors,
en fait,
pour nos auditeurs, pas de panique, on peut pas appeler ça un spoil vu que c'est une des premières quêtes secondaires laquelle on est confronté.
Voilà. Et donc du coup,
on est à la limite du tutoriel.
Et cette personne, en fait, donc on arrive à la trouver. On peut décider ou pas, je sais plus, de l'amener devant le nain, puisqu'il se justifie, il dit voilà, je me rappelle plus la justification, mais finalement on se dit oui, c'est censé, quoi, voilà. Et alors moi je l'ai ramené quand même, je l'ai ramené devant, parce que moi je suis un peu cupide, donc je l'ai ramené devant le nain, et finalement on voit que en fait le nain décide finalement de le livrer à la garde de Nilfgaard, et il va se faire exécuter. Et là on se dit ah merde quand même, quoi, ce pauvre mec. Et voilà, et on a un petit malaise quand même, ouais, par rapport à ça. Mais il y a pas mal de quêtes comme ça qui sont assez surprenantes.
Parce que le monde est comme ça. Mmh. De fait, ce monde-là ne propose pas un point de vue manichéen. Enfin, au début, on peut le penser parce que on a ces scénarios-là déjà dans la tête. Puis en réalité, tout le jeu fait que ça détricote complètement ça et que quasiment dès le début, on va se retrouver à prendre un mauvais choix ou un autre mauvais choix. Enfin, c'est-à-dire un choix égoïste ou un choix un peu humain. Bon, il y a des fois, on fait un choix égoïste.
Mais c'est-à-dire que même le choix humain, peut conduire à une.
Oui, peut conduire à une. Oui.
À une, comment dire, à, bah, une, pas une catastrophe, mais à.
Ah, mais il y en a, des belles plus loin, mais là, ce serait du vrai spoiler. Mais on a des choix très étonnants, c'est-à-dire qu'à un moment du jeu, on va faire un choix et puis on va prendre le choix ce qui nous semble être le plus humain, justement, et en plus par une arborescence de conséquences, ça aboutit à une catastrophe. Et c'est assez marrant parce que là ils sont très malins, parce que ce serait dommage de pas voir que ce mec est mort ou ce mec fait telle chose parce qu'on a pris une décision 14 heures avant. Et ben en fait au moment où arrive, le jeu nous raconte comment notre décision d'il y a 14 heures a abouti à cette catastrophe. Et là tu te dis ah ouais quand même. Et c'est assez incroyable. On va peut-être plus se concentrer avant peut-être de parler de l'histoire et de l'écriture, mais voilà, sur cette cohérence de monde ouvert. Et moi, il y a quelque chose, cette cohérence graphique, cette cohérence tu en as parlé, Joël, de vie qui est là. Et il y a quelque chose, je pense qu'il faut en parler dès le départ, parce que c'est dès le départ, bon, ça fait déjà quelques temps, quelques minutes qu'on est en train de parler, mais il faut en parler vite. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Je sais pas si c'est une trouvaille de CD Projekt. Je pense que c'est une trouvaille assez avec cette ampleur-là, c'est l'impact du vent sur l'immersion à l'intérieur du monde. C'est-à-dire que moi, c'est quand je regardais un paysage, c'était la première fois où j'avais l'impression de regarder un paysage vivant, parce que les arbres ploient sur le vent, bougent, l'herbe aussi bouge avec le vent, et du coup ça donne comme ça une sorte de mouvement continu des paysages qui est absolument bluffant.
Parce qu'on est, il faut quand même aussi dire que dans le jeu, on est quand même beaucoup dans la nature. C'est un jeu très pastoral, bon, même si c'est pas le dimanche à la campagne, hein, ça se passe pas tout à fait de cette manière. Oui, il y a le vent, et du coup, il y a les orages, la nuit, enfin...
Il y a le jour.
On en parlait en micro, mais les couchers de soleil sont absolument, absolument magnifiques. Mais je sais pas d'ailleurs si c'est un monde ouvert. Là où pour moi, ça dépasse un rockstar, me faire des ennemis en disant ça. ça dépasse un rockstar, mais ça le dépasse parce que rockstar est obligé de faire une ville pour l'instant. Bien qu'ils aient touché ça avec Red Dead Redemption, mais c'est sur Red Dead. C'est-à-dire, là, ils font pas un monde ouvert, ils font un monde. Ouais. Alors aujourd'hui, nous, on va appeler bac à sable, on va trouver toutes sortes de mots. Mais ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est un complet oubli le fait que, et ce qu'arrive à faire de toute façon GTA, c'est-à-dire le comble oubli, tu es dans, tu es à Los Angeles, tu es quelque part, mais tu es plus dans un, c'est plus un jeu vidéo. Ouais. Et là, c'est pareil, le vent, le fait que l'orage, etc., et très vite, là aussi, ça se passe très, très vite, sensation en main, on est dans cet univers. Cet univers est cohérent, les gens, le vent, effectivement, les arbres qui ploient, et on y est directement. Et ça, c'est un petit miracle. C'est-à-dire faire oublier qu'on est dans une prouesse technologique.
Oui.
Il y a quand même des soucis de choses qui sont embarrassantes. Alors après, je demande à avoir la fin. Je demande à avoir la fin. Par exemple, le fait que, alors, il y a beaucoup de butins dans le jeu. Ça, vous avez intérêt à acheter des gros sacs à dos parce que, effectivement, on passe beaucoup, beaucoup de temps à ramasser du loot, du butin. Ce qui est incohérent, par exemple, et j'espère que je serai puni à la fin. C'est-à-dire que dans toutes les maisons, en fait, des paysans où je me rends, je chope toutes leurs provisions, toutes leurs bouffes, toutes leurs arbres, ils ne réagissent pas. Et c'est un petit peu étrange, j'avoue. Alors que bon, si on fait ça devant des gardes, les gardes s'énervent un peu tout de suite. Mais là, c'est un petit peu étrange. C'est vraiment un détail.
Mais moi, c'est marrant parce que moi, je ne l'ai même pas essayé, tu vois.
Ah, c'est vrai?
Non.
T'as moi, même pas essayé non, de 15
j'ai,
heures.
En fait, les seules maisons que j'ai ouvert et où j'ai pris les objets, c'était les maisons vides.
Je ne sais pas.
Du coup, tu m'apprends que les gens ne réagissent pas. Mais en fait, le monde était tellement cohérent que ça m'est même pas venu à l'esprit d'aller ouvrir le coffre de quelqu'un qui était à côté. Enfin, si il y avait comme ça quelque chose. Peut-être que.
j'ai honte.
Ah, mais c'est là aussi où c'est peut-être aussi un jeu de rôle. C'est-à-dire que le mec, on peut très bien aussi en faire un voleur. Enfin, alors, bon, ce ne sera pas le roi de la cache-cache, hein, parce qu'il est quand même voyant, Gérald de Rive. Mais bon, on peut en faire un voleur absolu. Hein. Ne pensant qu'à du loot, qu'à faire du loot. Mmh. Moi, c'est la première fois où je l'ai testé hier. Je fais, ah oui, tiens, ils réagissent pas. Bon, c'est bizarre, mais j'avais déjà tellement de choses que bon. Mais j'avais pas testé comme toi, Hans, ça m'était pas venu jusque-là à l'esprit. Ouais.
Bon, ça va.
Mais nous aussi, on peut te faire culpabiliser.
C'est vraiment, enfin, c'est exactement ce que tu dis, Jean, sur cette capacité de ce monde à être réel. D'un coup, on sort du jeu vidéo. Et c'est vrai que. Il n'y a pas de ville. Enfin, ils sont. Il y a la grosse ville de Novigrad quand même.
C'est joli, mais c'est un bourg. Enfin, par rapport à si on compare à un GTA ou un.
Je pense qu'on ne doit pas être loin d'un. On doit pas être loin d'une ville d'Assassin's Creed.
Ah, c'est grand Paris quand même.
Non, pas Paris. D'un Venise ou d'un Florence dans Assassin's Creed. En taille, si, pour avoir les chiffres, vu que je suis en train d'écrire le papier sur The Witcher, je me suis renseigné. Pour avoir une idée des tailles, c'est le premier GTA 3, donc c'était 4 km², New York. C'était GTA 4, c'était 8 km². On était déjà passé par San Andreas qui faisait une vingtaine de kilomètres carré, voire près d'une trentaine. Et après, en fait, c'est assez marrant parce que si on regarde les surfaces, depuis Red Dead Redemption, il y a une sorte de
course, non ?
Non, il y a une sorte de norme à 40 km², en fait. C'est la norme de 40 km², c'est Red Dead Redemption, c'est Skyrim, 40 km², et c'est aussi GTA V hors zone maritime, parce que la map en elle-même fait 80 km², mais hors zone maritime, on est plus aux alentours de 40 km². Et The Witcher, les créateurs clament qu'ils sont 20% au-dessus de Skyrim, donc on peut dire que c'est 50 km², mais on reste quand même comme ça dans cette norme 50 km², qui semble être peut-être une nouvelle norme du monde ouvert. C'est la map idéale pour justement ne pas avoir l'envie absolue d'aller se frotter au mur. On en a parlé hors micro, mais c'était...
Skyrim, moi, m'avait donné l'impression, bon, au bout d'une centaine d'heures de jeu, hein, c'est pas la première heure que ça arrive, mais de sentir les limites, c'est-à-dire que les limites étaient dessinées par une chaîne de montagne, en gros. Mm. Et à un moment, bon, bah, t'arrives devant la chaîne de montagne, tu fais, bon, bah, c'est tant pis, on va faire demi-tour. Je sais pas, c'est beaucoup plus malin dans The Witcher. On n'a pas l'impression d'arrêt. Alors, il y a l'eau, effectivement, il y a des montagnes, c'est assez varié, il y a des dragons. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, on en discutait avec Joël, c'est que si tu t'approches trop de la limite, il y a un gros dragon qui arrive, puissant, et lui, il est à niveau 20 000, quoi, vous êtes à niveau 2, et puis voilà, un petit crachat, un éternuement, il n'y a plus personne. Et je trouve que c'est très malin parce qu'on n'a pas cette sensation. Et du coup, on n'en a pas envie, effectivement. Peut-être que cette norme devient la norme des jeux vidéo pour se dire, bon, bah, on est bien là.
Voilà, on est bien là.
Encore qu'il faut l'animer. qu'il faille l'animer quand même. Oui. Et c'est très bien animé là aussi sur la faune qui est présente. Ouais. Comme dans Red Dead Redemption, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais on passe quand même beaucoup de temps à faire de la cueillette.
Hein. Oui.
La cueillette, c'est très important.
Moi, j'ai fait beaucoup de cueillette. Et moi, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez des combats. Parce que mine de rien, les combats sont quand même occupés. Pas mal de temps aussi dans le jeu, et on est un petit peu obligé d'en passer par là.
Ils sont vachement bien, je trouve. Bah,
moi, ce que j'aime bien, ce qui est vraiment une nouveauté, mais même dans mon rapport même au combat dans les jeux vidéo, il y a une nouveauté dans The Witcher, c'est ce côté renseignement avant combat. Alors, parce que voilà, il y a les petits combats, les petits noyeurs là qui traînent et qu'on zigouille sans trop se poser de questions. Quoique, on peut se faire avoir par le nombre. Mais il y a les combats où finalement on finit par apprendre à la manière d'un sorceleur à connaître ses ennemis, à connaître leurs points faibles, et c'est cette alliance entre les magies, les potions, les huiles. Alors, les potions c'est celles qu'on boit, les huiles c'est celles dont on graisse son épée avec une huile spéciale, et la magie qu'il faut utiliser contre certains les points faibles. Bah, je veux dire, par exemple, au bout d'un moment, on sait que si on veut s'attaquer au loup-garou sans utiliser la flamme, sans utiliser le feu, ça va commencer à être pénible. Si on veut s'attaquer à un spectre sans mettre des pièges, eh ben on va y passer des heures et on va surtout mourir. Et finalement, on commence à étudier le glossaire, finalement, le bestiaire, avant chaque combat. Et puis on apprend les points faibles, et c'est ce qui est génial, c'est quand ces points faibles là, on commence à les apprendre, à les intégrer et à ne plus avoir besoin le noyeur, ça fait partie de la catégorie des nécrophages, donc en fait je vais plutôt utiliser ça. Et du coup, alors les combats en eux-mêmes, en termes de gameplay, je les trouve raisonnable, ça va. Je suis plus à l'aise avec les combats de The Witcher 3 qu'avec ceux de The Witcher 2, qui étaient plus techniques, en fait, qui avaient un côté moins abordable. Ouais. Et je trouve que, par exemple, la bonne idée, c'est de rendre la magie abordable. Moi, je sais que je suis j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Donc, dans les combats ou dans les jeux vidéo, d'une manière générale, quand on peut taper à l'épée et faire de la magie en même temps, je suis perdu. Généralement, c'est je suis perdu. Hein. J'arrive à taper à une épée ou à jouer un magicien, mais pas les deux. Et là, en fait, ils ont réussi, par une question de rythme, par une question de rechargement de sort qui est relativement long, donc tu vas pas cartonner sur ton jet de flamme, c'est juste tu vas attendre qu'il soit rechargé pour en refaire un. Et ben, j'arrive à marier les deux, en fait, je sais pas. Et toi,
moi, je trouvais que c'était propre, bien fait.
Par exemple, c'est là où Skyrim est très bordélique. On tape au bout d'un moment, on tape dans tous les sens, où on chope un super sort et puis on désingue tout le monde. Il n'y a plus tellement de finesse. Effectivement, soit c'est le nombre, et on se dit, oui, on va les avoir, ceux-là, puis en fait, au bout de 4, puis on s'y est mal pris, on y est allé bille en tête, et en fait, on se fait fracasser. Après, il y a ceux qui arrivent avec un niveau supérieur, avec genre une tête de mort sur le côté, on se dit, bon, allez, je vais quand même le tenter. Bon, ça dure 15 secondes. Oui. On s'amuse au début, mais c'est très technique. Ça rappelle un petit côté, entre guillemets, Bloodborne, c'est-à-dire, en tout cas, de contre les gros. Le jeu arrive à faire des combats homérique, épique. Où on sort, on se dit waouh, quand même. Je suis passé 2-3 fois près de la mort, j'ai mis mon temps.
Généralement, je passe pas près de la mort, je meurs.
Mais voilà, ils arrivent à créer des combats épiques là où Skyrim, au bout d'un moment, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus parce qu'on était surpuissant et que c'était comme ça, on avait trouvé la combine, etc. Là, c'est pas le cas pour trouver les combines. Il y a beaucoup trop de combines pour qu'on puisse les trouver immédiatement. Et je trouve ça très très malin. C'est vraiment assez précis.
Oui, c'est vrai qu'il y a un apprentissage. C'est vrai qu'il y a, comme dans Bloodborne, toute proportion gardée, c'est vrai qu'il y a un apprentissage de chaque. Et comme tu soulignais aussi, Erwan, il y a un apprentissage de chaque type de mob, de monstre. On sait que les humains, par exemple, quand il y a des bandits, on sait qu'on va. Donc les premières fois, on s'y rend, on se fait zigouiller vite fait. Et puis après, on comprend qu'effectivement, il y a un archer un ou plusieurs archers qui nous menacent, donc il va d'abord aller falloir les passer à trépas.
Et puis on apprend à parer plus avec les monstres, à éviter, à se placer aussi, le placement
est important. Donc ce sont plutôt, moi je trouve qu'ils sont plutôt intéressants, les combats à chaque fois, et toujours relativement,
et je pense qu'il y en aura des mémorables,
et je trouve ça intéressant au moment où finalement il y avait la norme Batman Arkham qui est qui est en train de s'imposer à juste titre pratiquement parce que c'est un très très bon système de combat, mais il est en train de s'imposer dans tous les systèmes de combat actuels. Et ben là on retrouve un peu, on repart un peu en arrière, on est moins sur un jeu de rythme, on est plus sur un jeu de combat un peu viscéral comme ça. Et c'est pas pour me déplaire. On va continuer sur évidemment on va continuer à parler de The Witcher 3, hein. Il y a encore tellement à en dire. Mais on va quand même faire une petite pause avec Monsieur Fall qui revient quelques années en arrière, d'après ce que j'ai compris. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de construire des palais au cœur de la Médine grâce à Medina, un jeu de Stéphane Dora illustré par Hans-Georg Schneider et Eduardo Berra. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes et c'est proposé en français par Gigamic. Ce jeu a une histoire un peu particulière car c'est un vieux jeu pas tout à fait récent. Il est sorti en 2001 et à ce moment-là, il a reçu le premier Trick Track d'or de toute l'histoire. Notre prix que nous avons à nous sur Trick Track, il a eu le Trick Track d'or, ce qui veut dire que c'est un très très bon jeu car sur Trick Track, nous ne nous trompons jamais. Il revient sur les étals retravaillés par Gigamic et son éditeur étranger White Goblin. Ils ont rajouté des éléments, ils ont changé quelques bricoles pour le rendre encore plus attractif et plus intéressant. Alors, que faut-il faire dans Medine ? C'est simple, vous allez devoir construire des palais et en prendre possession. Vous allez prendre possession de 4 palais de 4 couleurs différentes, mais vous allez devoir batailler avec les autres joueurs qui vont faire à peu près la même chose. La règle est limpide. Vous avez des pièces en bois derrière votre paravent, des pièces en bois de couleurs, de différentes formes, et à votre tour, vous allez en poser 2 au centre du plateau, et seulement 2, c'est tout, il n'y a rien d'autre, donc c'est très très simple. Par contre, c'est un peu plus compliqué, c'est les implications et le cheminement mental et intellectuel. C'est un jeu rotor, un jeu fourbe, un jeu de calcul, un jeu de pression, un jeu de bluff, puisque construisant votre palais, ils vont valoir un certain nombre de points. Et à un moment donné, à votre tour, vous allez pouvoir poser, parmi l'une des pièces que vous avez, votre toit, votre couleur, sur l'un des palais et en prendre possession. Plus personne ne pourra le prendre, sachant que vous allez devoir posséder un palais de chaque couleur, c'est obligatoire et rien d'autre. C'est donc un jeu à point de bascule, vous allez devoir bluffer, calculer, réfléchir, coincer les autres joueurs, enfin bref, c'est une petite merveille, je vous le conseille, j'adore ce jeu, parce qu'il me rappelle le bon temps où on n'avait pas grand chose à faire à son tour, mais que les implications étaient forcément extrêmement excitante. Ceci dit, on revient à ce genre de jeu et c'est peut-être pour ça que cet éditeur a ressorti ce vieux bijou de son tiroir pour nous le proposer avec quelques transformations, puisqu'il y a, je vous passe les détails, il y a des récupérations de tuiles en touchant des remparts, etc. Enfin bref, des points marqués de ci, de là. Bref, je vous conseille Medina, c'est une merveille. C'est signé Stéphane Dora, c'est illustré par Hans-Georg Schneider et Eduardo Berra. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Les parties font 60 minutes. Peut-être au début, vous allez mettre 90 parce que vous allez devoir un petit peu calculé, mais ça va assez vite. Ça coûte à peu près 45€ dans toutes les bonnes boutiques. C'est édité en français par Gigamic. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv, bien sûr, les incontournables sites sur l'actualité, les critiques, tout ça, des jeux de plateau. On va forcément continuer là maintenant à parler du jeu de la décennie, du jeu du siècle. On va peut-être pas s'emballer. Enfin, si, emballons-nous. The Witcher 3 Wild Hunt. Petit son tiré de la cinématique d'introduction de The Witcher 3 Wild Hunt. Impressionnante cinématique et je crois que c'est une des seules qui n'est pas faite avec... la seule, en tout cas jusqu'ici, qui n'est pas faite avec le moteur du jeu. Vous avez, je crois que tous les deux, fait la comparaison, forcément, avec Red Dead Redemption. Moi, je n'ai caché à personne que Red Dead Redemption avait été sans doute le jeu des dernières années, en tout cas en ce qui me concerne. Et il y a un parallèle comme ça qui me vient vraiment, qui me saute au visage. Et tu as dit aussi qu'on oubliait que c'était un jeu de rôle. C'est que, à la différence, par exemple, de Skyrim, on incarne Gérald de Rive, avec son passé, avec ses caractéristiques, avec son aura de personnage, qui, avec son métier. Et donc, en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans The Witcher, c'est qu'on a déjà une place dans ce monde. On a la place de Gérald de Rive dans ce monde, le loup blanc qui est connu, et ce qui fait que rien ne paraît artificiel dans le scénario notamment, et dans les quêtes secondaires notamment. Parce que, je m'explique, Skyrim, on crée son personnage, on se crée une réputation, mais voilà, on récolte des quêtes, on aide tout à chacun, on décide d'aider un tel à retrouver je ne sais pas qui, et on est dans un système de jeu de rôle classique. Ici, eh ben, si on fait un contrat, c'est un contrat de sorceleur, c'est notre boulot, on est payé pour abattre les monstres, on va aider. Si on accepte de venir en aide à quelqu'un, eh ben, c'est parce qu'il va faire appel à nous, parce qu'on est un sorceleur, parce qu'il va nous reconnaître avec les deux épées. Et en fait, le fait de jouer comme ça, d'incarner un personnage défini dans le monde, moi je trouve que l'immersion est dans le scénario et dans l'univers est complète. Je ne sais pas si ça vous a fait à peu près...
Ouais, comme un Marston, comme un John Marston dans oui. Red Dead Redemption. Voilà, oui, effectivement. Oui, et puis ce qui est assez bizarre, c'est que finalement, on n'a pas besoin du 1 et du 2. Alors, je dis ça, c'est à moitié vrai, parce que bon, parfois, il y a des références à un ancien roi mort. Si on n'a pas
oui,
bien suivi,
c'est
qui.
Il y a des moments où ce n'est pas très, très clair.
Oui, hein. C'est pas très, très clair. Mais quand même, grâce au fait que ça échappe un peu aux RPG occidentaux, voilà, normalement, on doit passer 2 heures. Ça fait partie du plaisir du RPG occidental de faire son personnage. Mmh. Voilà, de est-ce qu'on va choisir un voleur, est-ce que je vais choisir un paladin, etc. etc. Et c'est là où je disais Skyrim dans les combats était assez partiel, était assez maladroit. Par exemple, si on choisissait un voleur, bon, finalement, on était obligé de taper comme un chevalier au bout d'un moment parce que ça ne fonctionne pas, le système de combat ne fonctionnait pas. Là, effectivement, on a un personnage, donc on est plus dans le côté japonais, en fait.
Ouais, hein,
on vous présente un personnage, c'est lui, voilà, et avec ses caractéristiques. Et puis, vous allez rentrer petit à petit dans les pas du héros et dans les pas de cette histoire. Et ça fonctionne effectivement assez bien. Parfois très bien, et parfois il y a des références quand même qui nous échappent. Bon, on se dit, c'est pas très grave. On va
en même temps, moi je dis heureusement, parce que si j'avais fini The Witcher et The Witcher 2 et que c'est des projets qui ignoraient superbement mes efforts pour avoir fini les deux premiers, je serais un petit peu vexé quand même. Donc je pense aux joueurs de la licence.
Mais on peut effectivement s'en passer. On peut vivre cette magie-là. Oui, ça fait partie du. Parce que ce héros est quand même incroyable. Voilà, c'est un Marston. C'est un Marston 2015.
Moi, cela dit, il y a quand même des éléments de jeu de rôle. Il y a quand même l'arbre de compétences dans lequel voilà, on va pouvoir rajouter.
Mais RPG quand même.
Encore là, c'est simple. C'est-à-dire qu'on gagne un niveau, on gagne un point. Enfin, en fait, je trouve ça relativement. On n'est pas Pillars of Eternity, par exemple, où si on choisit un magicien et qu'on gagne un niveau, c'est une catastrophe parce qu'on a le choix entre 153 sorts, on ne sait pas où on est. Tandis que là, finalement, on a un arbre de compétences. Il va aller assez vite avec notre style de jeu, quoi. Si on veut plus des attaques puissantes,
j'aurais peut-être préféré un arbre de compétences qui s'adapte plutôt en fait, à l'expérience de jeu. C'est-à-dire, je pense que ça aurait été encore plus intéressant. C'est-à-dire que voilà, si on utilise davantage les sorts, ça se traduit par une augmentation en fait, des compétences au niveau des sorts. J'aurais préféré ça. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus fluide.
Mais là, on aurait été vraiment quasiment à la japonaise totalement. C'est-à-dire on gagne un point, on gagne comme Dragon Quest, on a plein de choses, mais bon, on décide pas de masse de trucs dans ses propres caractéristiques. Ça, c'est pas très occidental. Je pense qu'il y a des joueurs qui l'auraient peut-être tiqué.
C'est clair. C'est un peu, comme à chaque fois où on fait une émission spéciale sur un seul jeu, c'est un petit peu brouillon, comme ça, il y a les sujets. Mais vu que vous avez abordé à peu près tous les éléments du jeu la première fois que vous avez parlé, mais il y a cette écriture qui... Cette comparaison, on revient, et c'est pas la première qu'on fait dans l'émission, mais on est au niveau de l'écriture d'un rockstar, qui était quand même, qui était jusqu'ici inatteignable. Et on connaît notamment les difficultés d'un éditeur comme Ubisoft.
Clairement. C'est leur vrai problème.
C'est leur vrai problème dans Assassin's Creed de ne pas réussir la narration, de ne pas emporter la narration à un niveau d'un GTA ou d'un Red Dead Redemption, c'est-à-dire de happer les joueurs comme ça dans une épopée. Et moi, je commençais un peu à désespérer comme ça de voir un blockbuster atteindre le niveau rockstar, c'est-à-dire un scénario, des personnages, des dialogues, enfin voilà, tous les éléments scénaristiques qui forgent un univers qui emmène dans une histoire.
Non, je me disais, la traduction devait être sans doute très très bien faite. J'avais rencontré en fait alors il faut savoir que le jeu il sort quand même en 15 langues, dont 7 avec doublage, quoi. C'est-à-dire, c'est assez énorme. Et je me rappelle avoir rencontré un développeur de CD Projekt Red qui justement s'était occupé de la localisation en français et qui lui était à la fois parlé polonais, anglais et français. Et donc effectivement, il m'a raconté un petit peu son travail et ils se sont vraiment très bien démerdés pour pour la traduction des noms, par exemple j'ai plus l'exemple du, il y a une créature qui s'appelle le Brumelin. Je sais pas si vous l'avez rencontré encore.
Je crois pas, non.
Alors en anglais, je sais plus ce que ça. Oh, j'ai oublié ce que ça donnait. C'est dommage. J'aurais voulu vous donner l'exemple.
C'est laquelle, hein ?
Le Brumelin. C'est. Alors je sais plus quelle est cette créature. Et bref. Je voulais en tout cas souligner le travail, le travail excellent de traduction qu'ils ont fait. C'est-à-dire que tous et surtout la toponymie des lieux, ça sonne pas faux, quoi. C'est-à-dire, ça sonne, c'est toujours lié en fait à à l'environnement en fait, beaucoup. Alors que ça aurait pu être ridicule, mais là ça sonne toujours très bien en fait, et c'est toujours rattaché à l'environnement, quoi. C'est-à-dire les brumes là, on va les trouver dans un endroit où il y a de la brume, c'est normal, mais ça peut vous paraître un peu bête, mais c'est ce qui rajoute à la cohérence du monde. Regardez bien les noms de lieux quand vous les passerez.
Et ceci dit, oui, tu l'as dit, la VF est très très d'un très très bon niveau. Moi je suis passé en version anglaise. C'est vrai que si on parle de version originale pour The Witcher, du coup ce serait la version polonaise. J'irai pas jusque là, mais la version anglaise, je l'aime bien parce qu'il y a pas mal de différents accents britanniques en fait. Donc du coup je trouve que ça passe pas mal.
Vraiment, en plus le jeu est drôle, quoi. C'est-à-dire que je voudrais revenir sur l'humour grinçant, mais des fois on se trouve avec des quêtes mais complètement cocasses, quoi. C'est-à-dire deux petites quêtes comme ça, c'est pas du grand spoil, quoi, mais bon,
tu vas parler de la poêle.
C'est pas de salade, souvent
ces aventures cocasses.
J'allais parler de la chèvre, mais
naissent d'une la chèvre est pas mal. Naissent de personnages eux aussi cocasses. C'est-à-dire qu'on voit arriver le truc en se disant oh, y a... mais on voit la tronche d'ailleurs de Gérald Rory. mais c'est très drôle. Est-ce que je lui dis oui à elle? On cherche sa poêle, elle a perdu.
The Witcher, le plus grand chasseur de démons que le monde ait connu, qui va aller chercher une putain de chèvre.
Voilà, pourquoi pas?
Avec une cloche ou un truc. Avec
une cloche, mais ça c'est bien fait, ou une autre situation très
cocasse. Il est tellement blasé quand il accepte la mission. Ouais.
Et il y a une autre situation, mais c'est assez abominable et drôle à la fois, où il y a un père, en fait, j'en dis pas plus, mais un père qui va emmener en fait son gamin qui était mort-né, en fait, qui va le prendre dans ses bras,
est-ce que c'est bon ce passage?
C'est drôle, c'est trash à la fois, et ça marche très très bien.
Il se fait un peu engueuler aussi au passage. Voilà. Parce qu'il a quand même été un très très mauvais père.
Plutôt. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est aussi ce que vous pensez. Parce que pour le coup, moi, je n'y ai pas du tout joué, mais peut-être que toi, Erwan, qui est un fan de Hearthstone, peut-être que tu pourras nous dire si tu as joué au Gwent.
Alors, j'ai tenté. J'ai tenté, oui, parce qu'il y a le Gwent. On n'avait pas parlé de Gwent.
C'est vachement bien.
Tu as joué?
Ouais, j'ai joué un petit peu.
Le Gwent?
Ouais.
Oui, j'ai gagné. J'ai perdu la première fois, ça m'a bien vexé. Puis là, je les plante tous.
Qui est donc un jeu de cartes avec une mécanique assez originale, où finalement on pose des cartes. On a 10 cartes. On a 3 manches. Enfin, on gagne 2 sur les 3. C'est en 2 manches gagnantes. On a 10 cartes et on joue ces cartes. Et puis en fait, qui additionne la puissance. Et puis en fait, à chaque manche, en fait, c'est celui qui a la plus grosse puissance qui gagne la manche, sachant que si on joue ces cartes, eh ben on les joue et on n'aura plus de cartes, on ne peut plus les utiliser pour les manches suivantes. C'est ça en fait le gros principe du jeu, c'est ça, c'est qu'on décide combien de cartes on va jouer à la première manche, mais si on en joue 8, eh ben il nous en reste plus que 2 pour la manche suivante, ça va être un problème. Et donc c'est tout ça, cette équipe, quand est-ce qu'on arrête de poser des cartes, ou est-ce qu'on continue, est-ce qu'on lance le pouvoir spécial ou pas. Et c'est relativement simple, c'est quand même, il faut dire que c'est quand même énormément basé sur la collection. C'est-à-dire que si on a le jeu pourri du début, on va pas très très loin quand même, quoi. Sauf à la limite sur les parties à blanche fleur, mais c'est tout. Et donc il faut quand même énormément, en fait. Il y a comme ça un article très drôle, je sais plus si c'est sur Eurogamer ou un autre site américain, de comment gagner au Gwent. Et grosso modo, il dit, il faut consacrer sa vie à ça. C'est-à-dire que dès qu'on croise un marchand, on achète toutes les cartes qu'elle a. Dès qu'on croise une partie, on la joue. Ouais. Et si un marchand a une carte qu'on ne peut pas acheter, on va dévaliser tout le village pour récupérer de l'argent pour acheter cette carte, parce que ce marchand peut mourir. On ne sait pas ce que prépare le scénario, donc il faut vraiment tout le faire.
Oui, parce qu'il y a une espèce de tournoi qui se fait, qui se dessine, et on te dit là, tu gagnes contre un gros chef, tu gagnes la partie de Gwent, et on te dit il te reste plus que trois chefs avant de machin. Et alors il y a lui, il est bien. Alors lui, il est sévère. Lui, c'est un super joueur. Et lui, jamais tu le battras. Et donc en fait, il t'indique qu'il y a une espèce de tournoi sur tout le pays, et que pour le gagner, va falloir quand même s'accrocher sévère.
Et c'est un jeu dans le jeu, c'est assez marrant, ça rappelle le poker de Red Dead Redemption, notamment, c'est-à-dire que le poker de Red Dead Redemption était extrêmement bien mis en place, enfin c'était vraiment un jeu dans le jeu. Là c'est encore plus complexe, c'est qu'on a un Hearthstone à l'intérieur de pratiquement, c'est beaucoup plus simpliste qu'un Hearthstone, bien sûr, mais c'est un jeu de cartes à collectionner à l'intérieur du jeu. Moi j'avoue que j'achète les cartes et je joue en dilettante parce que, enfin voilà, on sait très bien qu'il y a un contenu tellement monumental dans ce jeu, qu'en plus le contenu de Gwent, c'est 20-30 heures de jeu arriver au bout qui se rajoute. Ça va être bien, il y a beaucoup de gens qui sont très heureux de ce contenu là, mais moi je peux pas, déjà j'ai du mal. Alors je sais pas si ça vous fait ça aussi. Non, toi tu nous as dit que ça te faisait, vous avez déjà répondu, mais moi, j'ai presque du mal à avancer dans la quête principale, parce que ça m'a fait ça dans Red Dead Redemption, mais à un point dans Red Dead Redemption, je me rappelle encore avoir bouclé toute la quête, obtenir le costume de légende de l'Ouest, et j'avais voulu absolument avoir ce costume de légende de l'Ouest avant la dernière mission, donc j'avais arrêté carrément, j'avais mis un stop à la quête principale, et là c'est un peu pareil, j'ai peur d'avancer parce que je sais qu'à chaque fois que je vais faire une mission de la quête principale, c'est comme si quand on était dans l'univers de The Witcher, le temps s'arrêtait et que l'horloge avance un petit peu quand même quand on avance dans cette quête principale. Je sais que Joël, toi t'es un peu comme ça.
Moi je fais toute une région et puis après je passe à autre chose.
Bon, sachant qu'on est obligé de revenir dans les régions avec les niveaux plus élevés. Après, parce qu'il y a des quêtes niveau 25 à Velen, ça va pas le faire.
Il y a quand même des petits défauts dans le jeu. Enfin, moi, moi, je joue sur console. Je trouve que le menu, c'est-à-dire pour y accéder sur console via la manette, c'est mal fichu. Je trouve que c'est pas très clair.
L'interface est un peu pourrie.
Sur la PS4, il y a le bouton le truc au-dessus là.
Moi, je me plante entre bouton noir. Je trouve ça pas très clair. Je trouve qu'il est pas très navigable. Enfin, pas aisément navigable justement la console.
L'inventaire est
épouvantable.
Épouvantable.
C'est
tu comprends rien.
C'est mal fichu. Et aussi, alors je sais pas si c'est mes yeux ou ma télévision, mais je trouve que le texte est écrit beaucoup trop petit.
Alors sur PC, moi j'ai pas ce problème là,
mais il y a
c'est comme ça des incohérences, genre tu viens de trouver un bouquin, t'as envie de le feuilleter et là tu vas dans ton inventaire et tu sais où il est ce putain de
dessin. Il faut sortir le dessin, mais quel dessin,
il est où, et là tu vas dans tes plantes, tu vas dans ta collection de plantes
et le cheval qui est maniable, maniable bof quoi.
C'est pas le cheval le plus maniable du jeu vidéo. C'est pas faux.
Bon, il faut quand même quelques défauts.
Je sais que vous en avez parlé en termes plutôt très positifs tout à l'heure. Je dirais peut-être pas que ça rentre dans la catégorie des défauts. Moi, ça rentre dans la catégorie des peut-être des déceptions, c'est que dans la catégorie, enfin dans les grands jeux de rôle, que je mets quand même quand c'est un grand jeu de rôle, on a eu Dragon Age Inquisition à la fin de l'année dernière, et la force d'Electronic Arts, c'est en tout cas un des trucs majeurs qui saute un peu à la gueule quand on y joue, c'est cette façon d'aborder le genre, d'aborder la sexualité des Dragon Age et des Mass Effect et tout ça, qui est voilà ouverte, où on n'est pas dans le mâle hétérosexuel dans toute sa splendeur. Et là, dans The Witcher, eh ben on tombe quand même dans
faut savoir
c'est le Moyen Âge quand même, hein.
Oui, mais dans ce que je veux dire, c'est
et encore que les femmes aient un rôle, si on prend pour les sorcières, enfin les magiciennes.
Mais moi, je trouve que les femmes sont mises, enfin bon, certes on ne joue pas, mais je trouve qu'elles sont mises à bonne enseigne, quoi. Je trouve qu'elles
c'est un mal hétérosexuel, on va pas se mentir. Ouais. C'est pas du BioWare. Mais le fait est que...
Non, mais que ce soit un mâle hétérosexuel et qu'il ait une sexualité ne me gêne pas du tout. Attention, je ne suis pas en train de dire que... Mais c'est juste que les sorcières ont une légère tendance à être toutes ultra jolies avec des décolletés monstrueux. Que
ah non, au moment, tu n'as pas vu les sorcières
Non, mais si, j'ai vu les sorcières, ah, oui, si. Mais non, mais... oui, les
c'est
trois,
vrai qu'il
oui.
y a une les tendance au décolleté.
Non, mais...
Ceci dit, lui aussi...
Mais tu sais très bien...
Il a une tendance au décolleté.
Oui,
si
lui aussi.
Là, il a quand même tendance à vouloir montrer un petit peu...
Bien sûr, mais je trouve que... Alors, il y a la représentation féminine avec certains personnages féminins est vraiment très bien, enfin j'ai pas de problème avec ça. Voilà, le fait de croiser une sorcière pote et qu'elle ait un énorme décolleté, voire même
plus rien,
et enfin il y a comme ça un truc un petit peu que je trouve un petit peu facile et que il aurait suffi, parce que en fait c'est ce qui est gênant, c'est pas que ça existe, c'est que il n'existe que ça, c'est comme présence sexuelle entre guillemets sexualisée, on est toujours dans ce rapport entre le bellâtre le bellâtre et la bonasse, grosso modo
c'est vrai.
On est toujours dans un rapport un petit peu classique, voilà, c'est pas pour moi ça en fait pas le jeu machiste et sexiste du tout, hein. Voilà, c'est juste pour moi c'est un écueil, c'est un truc, une facilité, surtout après Dragon Age, il y a quelques références aux violences familiales, aux violences conjugales dont on
l'homosexualité.
À l'homosexualité aussi.
Parce que, il vient en aide en fait
un chasseur,
qui a un amant, j'ai oublié l'histoire.
Oui, mais voilà, c'est pas des sujets tabous. On sent que voilà, ils sont quand même un peu dans la modernité. Je trouve que ça aurait été peut-être assez intéressant en plus de cette sensualité, de cette tension sexuelle, de ajouter peut-être des éléments.
Ils le font très vite d'ailleurs, hein, le coup du chasseur homo.
Ça surprend.
Ça surprend quand même.
Ça surprend,
parce que,
mais on ne s'attend pas.
Tout le monde n'est pas BioWare. Je ne suis pas sûr que ce monde-là appelle à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comment intégrer une telle modernité là-dedans sans que ce soit un écueil ok, c'est de l'héroïque fantasy, mais.
C'est pas Game of Thrones.
À quel moment Game of Thrones, c'est ultra match. Enfin, je veux dire, il y a rien. Si tu regardes,
c'est ultra féministe Game of Thrones.
Enfin, c'est ultra féministe. Enfin, je sais pas ce que c'est.
Pas
ultra,
j'ai pas vu la dernière. J'ai pas vu la dernière.
C'est ultra beaucoup de choses. C'est ultra féministe. C'est ultra machiste aussi. Enfin, je veux dire, il y a tout qui est présent. Tout est trop. Donc, est-ce que d'ailleurs, il y a un côté Game of Thrones dans The Witcher. On n'a pas cité parmi les références possibles, en tout cas, parce qu'il n'a pas que des références côté jeux vidéo. C'est bien pour ça qu'il est plus explosif que ça, en tout cas, qui dépasse ses propres frontières. À mon sens, je sais pas jusqu'à quel point introduire notre modernité dans quelque chose qui est de toutes les manières archaïque.
Game of Thrones, ils répondent bien.
Moi, je trouve que ça aurait été.
Mais enfin, quand tu regardes l'époque, tu te dis oui, mais enfin, vous nous faites bien rigoler. Mais enfin, ils étaient pas. Est-ce qu'ils étaient à ce point-là, à cette époque-là?
C'est pas une époque. C'est une époque complètement fictive.
Je trouve juste. Pour moi, c'est dans le torrent de laurier que je fais à ce jeu. Je trouve que là, c'est une facilité. C'est la constance de la sexualité hétérosexuelle classique avec les femmes à décolleté et tout ça. Voilà, je trouve que c'est une facilité que ils auraient peut-être pu, qui sait, dans des DLC ou peut-être à la fin du scénario que je n'ai pas atteint d'ailleurs, hein, peut-être.
Mais moi j'aime bien son côté libertin.
Ah, mais moi aussi.
Enfin, je trouve qu'il y a un côté libertin.
Ah, mais bien sûr.
Il a sa, sa copine un peu officielle, et puis il en a d'autres, et puis c'est bien.
Ouais, enfin, elles aussi sont un peu libres.
Oui,
elles n'attendent pas non plus, désespérément en train de chouiner la maison. Hein. Enfin,
c'est clair.
C'est pas ce que j'ai compris.
C'est ça. C'est pas le genre.
C'est pas la femme de Marvel.
Donc voilà, The Witcher 3. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Je pense qu'on pourra encore, en parler longuement. C'est vrai que je n'ai pas fini le jeu, comme vous l'avez compris. Je compte pas le finir avant 6 mois. Enfin, parce que je vais rester. Et puis en plus, il va y avoir des DLC gratuits. Mmh. Hein, il y a 16 DLC gratuits qui sont prévus avec des nouveaux costumes. On appelle ça des DLC maintenant. Mais mais aussi des nouvelles missions, des choses comme ça. Voilà, il y a tellement de choses à faire dans cet univers qu'on n'a pas envie que ça s'arrête.
Moi, pour le coup, là, je trouve que c'est vraiment un jeu adulte, quoi, en fait. Non, ouais. Vraiment, c'est la première fois où je me suis dit, ah tiens, on me prend vraiment pas pour un con, quoi, en fait.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, c'est tout bête, mais je me suis dit, on s'adresse pas à un ado, quoi, on s'adresse à un adulte, en fait, et ça m'a fait plaisir.
Et puis moi, ça faisait quand même un sacré paquet de temps que j'attendais. J'attendais comme ça cet appel, comme ça, cet appel d'un jeu qui me chuchote à l'oreille quand je suis pas devant mon écran. Allez, viens, reviens.
Tu penses la journée.
Allume l'ordinateur. Voilà. Ça faisait longtemps et je suis très très heureux de retourner régulièrement dans The Witcher 3. Voilà, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël?
Je passe mon tour, il faut que je réfléchisse. Ah, je suis allé voir Mad Max. Je ne sais pas si vous avez parlé, mais voilà, je suis allé voir Mad Max. C'était super. C'était génial. Voilà. C'était deux heures de bonheur.
Deux heures de bonheur féministe quand même.
Ouais, mais alors ça,
un petit peu.
Je suis pas sûr que ce soit vraiment féministe. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a le personnage, voilà, de la Furiosa, mais après l'espèce de gynécée aussi là des femmes de. Mais c'était génial, quoi. C'était vraiment que du bonheur, quoi. Enfin, bravo, ouais. Bravo Georges.
Jean.
Moi, je quitte pas The Witcher puisque. Du coup, avec le The Witcher 3, la Fnac a décidé d'offrir le premier volume, qui est un volume de nouvelles d'Andrzej Sapkowski, donc qui est le l'auteur polonais qui a écrit donc la saga du sorceleur. Ça s'appelle Le Dernier Vœu, donc c'est le livre qui a introduit ses aventures. Et je me suis dit, ça va être écrit avec les pieds, bon, machin, etc. La mauvaise héroïque fantasy. Là aussi, encore une fois, il faut mieux partir comme ça en se disant, qu'est-ce que je vais être déçu. Et je suis agréablement surpris, car j'y retrouve les mêmes qualités, notamment cette qualité littéraire qui est de rendre humains les monstres très vite.
Oui.
Donc c'est écrit, effectivement, là, j'ai pas lu les romans, hein, mais sur le format nouvelle, ça fonctionne très bien. Non seulement on comprend les horreurs qu'il vit, on le comprend aussi dans le jeu, parce qu'il se fait tout le temps insulter, hein, chaque fois qu'il va quelque part, dégage sorceleur, sale loup blanc, bon bref. Et les monstres aussi également qui deviennent humains, et il y a moins ce rapport, c'est là où le jeu vidéo est un peu plus, on va dire, un peu plus cogneur, hein, on frappe un peu plus. Là, on tente un peu moins de les frapper, les monstres. C'est vraiment le dernier moment du dernier moment du dernier moment. On ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce. Je ne sais pas si c'est une part d'humanité, mais on comprend très vite que ce sont des êtres vivants et qu'il y a une espèce de respect ou en tout cas que l'auteur arrive vraiment à les rendre vivants. Et ce bestiaire est là aussi avec des noms improbables. Tu les citais, mais. Et c'est assez incroyable, et j'ai du mal à quitter ce monde-là, en tout cas. Voilà. Ça s'appelle Le Dernier Vœu, c'est signé Andrzej Sapkowski, donc c'est le premier sorceleur.
Ce qui me fait penser que je suis en train de lire je ne sais pas si vous connaissez Robin Hobb, l'auteur de Fantasy, que je suis en train de le lire en même
temps. Attends, c'était quelle série ça c'est...
Robin Hobb, c'est l'Assassin Royal.
Mais oui, l'Assassin Royal, le bâtard.
Je suis en train de le lire en même temps, là, donc la dernière, parce qu'elle en est à sa troisième trilogie, et je suis en train de le lire, et c'est vrai que c'est très agréable de lire ce roman d'Heroic Fantasy. En même temps que de jouer à The Witcher 3. Voilà.
Et moi, après La Cité des Permutants de Greg Egan, j'ai commencé le recueil de nouvelles axiomatiques. Alors, j'ai appris que ça avait un nom, ça s'appelait de la hard SF, parce que c'est de la science-fiction comme ça, ultra-scientifique, où il explique tout. Mais c'est-à-dire qu'il est capable de partir dans La Cité des Permutants. Il parlait pendant très longtemps de systèmes informatiques et de biologie, comme ça, pendant des pages et des pages. Et là, en fait, en nouvelles, c'est assez rigolo, parce que en fait, les nouvelles en elles-mêmes sont pas mal, mais en fait chaque nouvelle c'est une idée de SF, comment lire dans le futur, comment les enfants génétiquement modifiés, enfin voilà, et il y a une idée comme ça toujours dans le même style très très détaillé de science-fiction très très détaillé, c'est vraiment pas mal. Voilà, et c'était bien. C'était bien ce The Witcher, vous y retournez vous
Ah bah oui,
on va pas lâcher ça. Et puis bah nous, on se retrouve très bientôt ici même pour parler de jeux vidéo. À la technique, c'était Mathilde Mallet. Ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.